Vous écoutez France Culture.
La glorieuse révolution de 1688 par laquelle les Whigs anglais chassèrent le roi Jacques II se présentait comme une restauration de l'ordre ancien des choses, troublée par une dynastie irrespectueuse des coutumes du royaume. L'année suivante, les nouveaux rois, Guillaume III et Marie II, durent concéder le Bill of Rights qui fit de l'Angleterre de l'époque le pays le plus libéral du monde. En 1787, la Convention de Philadelphie adopta la Constitution des États-Unis qui parachevait la conquête de l'indépendance. Elle fit l'admiration de nos futurs révolutionnaires, tant de Condorcet que de Brissot ou encore de Rabault-Saint-Étienne. Et puis, en 1789, comme on le sait beaucoup mieux chez nous, ce fut le tour de la France d'être aspirée dans la tempête révolutionnaire. Alors, nos trois révolutions ont tenté, chacune à sa manière, de résoudre les questions fondamentales qui se posaient, mais qui continuent sans doute à se poser à toute démocratie libérale. Comment concilier les nécessités contradictoires de la liberté et du pouvoir? Comment assurer la représentation de la diversité des intérêts et des opinions, tout en évitant le délitement et la fragmentation du corps social? Comment accompagner l'aspiration universelle à l'égalité des conditions sans ruiner les équilibres sociaux, ni en profiter pour accroître exagérément la puissance de l'État? Comment concilier les aspirations fédérales à gérer au plus près des intérêts locaux sans affaiblir gravement l'État central? Philippe Reynaud vient de publier un ouvrage consacré à ce sujet. C'est l'occasion de comparer les avantages respectifs de nos vieilles révolutions et de comprendre comment les uns et les autres nous en sommes arrivés là aujourd'hui.
Philippe Reynaud est notre invité, bien sûr, ce soir. Son ouvrage s'intitule « Trois révolutions de la liberté, Angleterre, Amérique, France » et vient de sortir aux presses universitaires de France. Philippe Reynaud est professeur à l'université Panthéon-Assas. Il est membre de l'Institut universitaire de France et se trouve justement à ses côtés un confrère, membre honoraire de l'Institut universitaire de France, Bernard Cotteret, qui est historien, spécialiste de l'histoire de l'Angleterre, qui enseigne à l'université de Versailles-Saint-Quentin et à l'IRCOM, qui dépend de Paris, Sorbonne. Je vois sur mes petits papiers. J'ignore ce que c'est que l'IRCOM, peut-être, Bernard Cotteret.
C'est l'Institut de recherche sur les civilisations de l'Occident moderne.
Très bien. Et vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui vient de sortir chez Payot, qui s'intitule Calvin. Et puis La royauté au féminin et Élisabeth première d'Angleterre, c'était chez Fayard au printemps dernier. Au téléphone, nous allons être avec Annie Jourdan, qui est historienne, qui enseigne en ce moment à l'Université d'Amsterdam. Donc, normalement, le téléphone devrait fonctionner, une ligne internationale depuis Amsterdam. Elle est l'auteur de La Révolution, une exception française, qui était parue chez Flammarion, qui est maintenant, je crois, en poche. Et puis La Révolution batave entre la France et l'Amérique aux presses universitaires de Rennes.
Alors Philippe Reynaud, commençons par quelque chose qui est un petit peu au cœur de votre ouvrage, un ouvrage absolument important, c'est aussi pour ça qu'on voulait lui consacrer une émission. Le problème classique de toute démocratie, c'est celui de la juste représentation des intérêts et des opinions, sachant que bien entendu les intérêts et les opinions sont divers. Comment assurer cette représentation juste des intérêts sans mettre en cause l'unité et la préservation du corps politique lui-même? Comment les différentes révolutions que vous évoquez dans votre livre, ces trois révolutions, celle de l'Angleterre, de l'Amérique et de la France, se sont confrontées à cette question de l'arbitrage entre l'unité et la diversité?
Je crois, si vous voulez, il faut partir de l'idée de représentation. Parce que la valorisation de la diversité en tant que telle, c'est quelque chose qui, pour nous, paraît évident. Pour nous, ce qui caractérise les démocraties libérales, c'est le pluralisme. Mais ça n'est pas si simple au départ. Au départ, ce qui est premier dans la pensée politique, c'est plutôt la nécessité de l'unité. Et le régime représentatif classique, sous la forme anglaise, s'est constitué précisément d'une certaine manière par l'idée que les représentants devaient être relativement indépendants des intérêts de leurs mandataires.
Pas de mandat impératif.
Pas de mandat impératif, c'est le thème d'un grand discours de Burke, qui est pourtant, disons, le grand Whig classique et qui a été un critique féroce de la Révolution française. Je crois que ceux
pourtant, la Révolution française aussi prohibe le mandat impératif.
Oui, mais si vous voulez, on y reviendra
d'accord.
Peut-être. C'est très intéressant, en effet, de voir qu'apparemment, il y a un accord entre Burke et... Mais quand Burke et la Révolution sont d'accord, c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord, même sur ces points-là. Mais je crois que ceux qui introduisent vraiment l'idée qu'il est utile et même nécessaire de représenter la diversité des opinions et des intérêts, c'est les Américains. C'est principalement Madison, dans deux passages célèbres du Fédéraliste, qui est le recueil des articles publiés par des partisans de la Constitution en 87, dans le numéro 10 et dans le numéro 51, Madison se pose la question de savoir comment combattre les factions, ou comment du moins les neutraliser, les factions, c'est-à-dire ces groupements d'opinions et d'intérêts qui sont plus que des partis, qui peuvent être violents, qui peuvent faire des déchirements violents. Et d'une certaine manière, par avance, il réfute ce qui va être le grand argument français contre le pluralisme, c'est-à-dire l'idée qu'il faudrait arriver à supprimer les factions. Il dit qu'il est impossible de supprimer les factions. Ils sont aussi inévitables que le feu à partir du moment où on a de l'oxygène et de l'air. Et ce qu'il faut faire...
La liberté est aux factions ce que l'air est au feu.
Oui.
Donc si on voulait supprimer les factions, il faudrait supprimer l'oxygène et évidemment supprimer la liberté.
Supprimer, oui. Et donc le moyen va être de les multiplier.
Alors... Vous, Annie Jourdan, qui est une comparatiste un petit peu des révolutions bataves, alors on connaît encore moins, on a choisi ces trois révolutions-là, Angleterre, États-Unis, France, parce que Philippe Reynaud vient de leur consacrer un livre, mais alors la révolution batave, elle est vraiment très peu connue chez nous. Qu'est-ce qu'on dit chez vous de cette méfiance rousseauiste à l'origine envers ce que Rousseau appelait les brigues, ce qui deviendra les factions chez nos jacobins, la France qui rêve d'une république à l'ancienne, qui serait vertueuse, civique, austère, se méfie des divisions internes, des intérêts particuliers, des corporations, d'ailleurs on les a abolies sous la loi Le Chapelier, parce qu'elles risquent de fragmenter le corps politique. Comment se fait-il que les Anglais, les Américains, les Bataves, je ne sais pas, ont, eux, prôné, comme vient de nous dire Philippe Reynaud, au contraire, la multiplicité des intérêts, pensant que la liberté était aux factions, ce que l'air est au feu, comme vient de dire Philippe Reynaud, citant Madison.
Justement, les Américains, sous l'impulsion de Madison, acceptent le pluralisme des intérêts, mais il faudrait le rappeler, ce qu'il rappelle d'ailleurs dans son livre, il compare les factions aux nombreuses sectes qui cohabitent dans le pays et qui se neutralisent.
Les sectes religieuses.
Oui, les sectes religieuses qui se neutralisent les unes les autres, justement, par leur diversité. Et ce qui m'interroge, disons, c'est le fait qu'en France, en effet, c'est l'inverse qui se passe. Les factions sont vues comme néfastes et il y a une...
On pourrait dire parce qu'elle fragmente l'unité nationale. Mais pourquoi sommes-nous si anxieux de voir notre unité nationale exploser comme ça dès 89?
Non, il y a vraiment une utopie de l'unité qui me semble être quand même un héritage de l'ancien régime. Et pas seulement de l'ancien régime absolutiste, mais aussi de l'ancien régime catholique. C'est-à-dire d'une politique religieuse exclusive, disons, en France. Parce que justement, si on revient aux Bataves, les Bataves ont connu les deux refuges protestants. Ils ont accueilli les protestants qui ont été bannis de France ou qui ont dû s'enfuir de France. Et ça joue un rôle aussi en Hollande, bien sûr. Mais cela dit, il y a quand même, il y a dans les trois révolutions une peur des divergences. Je trouve qu'on ne met pas assez l'accent. Dans les trois révolutions que j'ai étudiées, c'est-à-dire la Hollande, l'Amérique et la France, il y a une tentation terroriste dans les deux autres révolutions aussi. Mais elles vont moins loin que la France. Donc, éventuellement, peut-être justement parce que le conflit n'y apparaît pas insurmontable.
On viendra sur cette tentation terroriste, mais je voudrais donner la parole à Bernard Cottret, spécialiste de la Révolution anglaise, sur un point particulier concernant toujours cette affaire de la diversité des opinions et des intérêts qu'il s'agit de représenter sans mettre en cause l'unité du corps social. J'ai trouvé chez Philippe Reynaud l'analyse suivante de Hume. Donc Hume, c'est pas un Anglais, c'est un Écossais, mais enfin, c'est les Lumières écossaises et il fait vraiment partie de ce courant libéral britannique. Hume dit, d'après Philippe Reynaud, j'ai pas été été vérifié, que les partis sont souhaitables moins, surtout que lorsqu'ils agrègent des individus pour la défense d'intérêts communs. Ils sont moins souhaitables, dit Hume, lorsqu'ils regroupent des individus en fonction de leurs idéaux. Parce que là, il s'agirait d'une résurgence des anciennes luttes religieuses qui ont conduit l'Europe au XVIe siècle à la guerre civile. C'est intéressant de voir que pour Hume, la diversité des intérêts est plus légitime que la diversité des opinions. Pour nous, aujourd'hui, la politique moderne, elle est plus fonction de divergence d'opinion que de divergence d'intérêts.
Oui, on parle souvent de Hume, effectivement, au sujet de la politique britannique au XVIIIe siècle. Il y a ces essais qu'il a écrits qui sont tout à fait fascinants. Mais évidemment, c'est une période relativement tardive, en particulier par rapport à ces deux révolutions d'Angleterre du XVIIe siècle, parce que vous parlez de la révolution d'Angleterre, mais évidemment, il y en a au moins deux. Il y a une première qui dure de 1642 à 1660, la première restauration, qui est une révolution violente, une révolution qui ressemble d'une certaine façon à la révolution française, en ce sens qu'on tue un roi et que l'on proclame une république et que, comme les romantiques sont les premiers à l'observer, on a un Cromwell-Napoléon. Donc il y a là une première séquence qui a été très importante dans l'histoire anglaise. Et il y a une seconde séquence qui, elle, est une séquence brève, à laquelle j'avais consacré un livre, vous ne l'avez pas dit tout à l'heure, mais je me permets de le signaler, justement la révolution de 1688-1689. Et cette révolution, sa caractéristique première, c'est sa brièveté, parce qu'elle ne dure que quelques mois. Et ensuite, on l'appelle aussi la révolution qui n'est pas sanglante, la Bloodless Revolution, parce qu'on s'est contenté d'aller tuer les Irlandais à domicile, et que ça n'est pas véritablement perçu comme un acte de violence dans la Grande-Bretagne du XVIIIe siècle. Alors, cette glorieuse révolution, dans le fond, c'est un putsch, c'est un coup d'État qui, en fait, a été totalement unanime ou presque, et contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, pardon de vous reprendre sur ce point, ça n'est pas du tout les Whigs qui sont arrivés au pouvoir en 1688-1689, ce sont les Whigs et les Tories, les deux partis politiques qui en réalité se sont ligués contre le roi Jacques II. Et on voit le roi Jacques II petit à petit perdre tous ses partisans, y compris parmi les Tories. C'est-à-dire que la révolution de 1688-1689 est encore une révolution unanimiste et que la question des partis politiques, la question de la diversité est très très mal vécue en 1688-1689, qu'elle est encore très mal vécue 30 ans plus tard et que c'est véritablement avec des gens comme Buck dont il a été question précédemment, que la diversité politique a droit de citer pleinement. Mais jusqu'à Buck, vous savez, il y a un fameux thèse de Buck dans lequel il dit que les partis politiques permettent en fait de concilier la recherche de l'intérêt privé et l'intérêt général. C'est ça, dans le fond, le libéralisme. Est-ce que c'est ce que j'explique à mes petits étudiants de deuxième année cette année, s'ils ont le bonheur de nous écouter aujourd'hui? Effectivement, comment concilier l'intérêt privé et l'intérêt public? Et Buck dit qu'il n'y a rien d'inconciliable entre les deux. Mais il est l'un des premiers à le dire. Et jusqu'à Buck, effectivement, les partis politiques, les Whigs et les Tories, sont perçus véritablement comme une anomalie qu'il faut réduire. Et l'une des façons de réduire cette anomalie, c'est ce que fait Bolingbroke quand il appelle un grand parti patriote. Le patriotisme, c'est ce qui permet justement de faire l'économie des partis politiques. Et c'est là que Buck prend comme principal adversaire précisément Bolingbroke. Et l'excès de Buck sur les partis politiques, comme tout ce qu'a écrit Buck d'ailleurs, s'est dirigé essentiellement contre Bolingbroke. Oui. Donc je crois qu'il y a là une question qui est une question fondamentale, qui est celle de la diversité. L'Angleterre n'est pas une démocratie en 1688-1689. Le terme de démocratie n'est pas utilisé à propos des institutions anglaises jusqu'à l'extrême fin du XIXe siècle. Donc il ne faut pas du tout voir une Grande-Bretagne démocratique. C'est très différent, évidemment, dans le cas américain. Je ne dirais pas États-Unis, parce que la Révolution est dans l'Amérique coloniale encore. Et dans le cas de la Révolution française, où le mot démocratie, lui, effectivement, est utilisé.
Mais on entend bien, Bernard Cottret, que vous faites là un travail d'historien.
Oui, c'est ce que j'ai l'habitude de faire.
Ce que Philippe Reynaud fait, c'est plus un travail de philosophie politique, j'oserais dire, puisque c'est tout autant les traces les traces de la façon dont se sont passées ces trois révolutions de la liberté, les traces qui, qui nous suivent jusqu'à présent, qui vous intéressent peut-être plus que de savoir si le terme démocratie a été utilisé à telle ou telle époque en Angleterre. Je pense que
ça lui consacre quand même un article.
Si, ça a quand même
oui,
un sens,
bien sûr, mais moi, enfin, la façon dont moi je n'ai pas lu l'entièreté de votre livre, mais parce qu'il est très gros, il faut le dire à nos auditeurs. Mais
ne découragez pas.
Ce qui m'a intéressé, c'est quand même la question de l'héritage en France d'une révolution qui s'est passée quand même de manière assez différente des deux autres. D'ailleurs, les Britanniques eux-mêmes, il y a un refus, expliquez-vous, anglophone, de comparer les trois révolutions. Bon, il y a un refus français, mais il y a aussi un refus du côté des conservateurs américains et anglais de voir leur révolution comparée avec les sanguinaires coupeurs de tête. Et donc, vous voyez dans ces trois révolutions quand même une différence en France, ce poids de l'héritage de l'absolutisme qui se maintient même après cette révolution si radicale.
Je crois qu'il y a ça, bien entendu, mais il n'y a pas que ça. Un mot d'abord sur la comparaison des trois révolutions dans le monde anglo-saxon et dans le monde américain. Ça a été un problème classique. Il y a un très grand livre sur ce sujet qui est le livre de Richard Palmer, est un livre des années 50, qui est un livre absolument admirable, L'âge des révolutions démocratiques, je crois, The Age of Democratic Revolution, qui est un livre, à mon avis, un dépassé. D'ailleurs, c'est un livre de premier ordre, mais qui correspond à une période où les chercheurs américains avaient le sentiment, je dirais, d'une communauté de destin entre l'Europe et l'Amérique. Et naturellement, on pensait qu'il y avait des nuances, des harmoniques différentes dans les révolutions, les grandes révolutions démocratiques de la fin du XVIIIe siècle, mais qu'il y avait une unité de civilisation. Je crois que ce que traduit le manque d'intérêt des chercheurs américains aujourd'hui, enfin, ou le moindre intérêt, il ne faut rien exagérer, il y a des travaux de qualité sur ces questions, c'est un certain éloignement entre les États-Unis et l'Europe, qui touche d'ailleurs aussi bien les démocrates ou les progressistes, si vous préférez, que les conservateurs. Après tout, je ne suis pas sûr, si vous voulez, que l'Amérique d'Obama se passionne pour la Révolution française. J'ai envie de dire, l'Amérique de Bush la déteste, mais l'Amérique d'Obama ne s'y intéresse pas. Donc, je ne crois pas que ça soit...
Elle ne s'intéresse pas aux révolutions européennes de 1989 non plus, comme on a pu l'observer lors des
Il y a un éloignement très... C'est la toile de fond de notre époque. Alors maintenant, pour ce qui concerne ce qui fait l'originalité de la Révolution française, la continuité avec l'ancien régime absolutiste, bien entendu que c'est un problème, mais moi, ce sur quoi j'ai plutôt envie de mettre l'accent, c'est sur les raisons qui ont fait que cette révolution si violente et si terrible, par certains côtés, a eu un écho immédiat, peut-être davantage que la Révolution américaine encore, et certainement davantage que 1688 en 1688. Et c'est pour cela que je considère que, paradoxalement, le meilleur guide pour suivre ça, c'est Burke, qui est un ennemi de la Révolution française, mais qui, je crois, a admirablement compris les enjeux de la période. Et ce qu'il voit dans la Révolution française, il a une très belle formule dans la comparaison entre la France, l'Angleterre et implicitement l'Amérique, c'est que les Français ont déchiré le voile que les Anglais avaient très sagement jeté sur ce qu'ils avaient fait. C'est-à-dire que Burke explique très profondément, au fondement des révolutions modernes, il y a quelque chose comme ce qu'on appellerait la souveraineté populaire. Il y a le fait que le peuple peut changer les régimes. Simplement, jusqu'ici, une fois qu'on l'avait fait, on se gardait de le dire, on recouvrait ça très, très, très pudiquement, on jetait un voile, c'était exactement ça. Et si vous comparez d'ailleurs le Bill of Rights anglais, la déclaration d'indépendance américaine et la déclaration des droits de l'homme, vous verrez qu'on va de plus en plus vers l'explicitation du fait que les droits de l'homme et la souveraineté populaire ne se négocient pas, ce qui veut dire en fait que tous les régimes de l'ancienne Europe sont illégitimes. C'est ça qui représente la Révolution française d'un seul coup. C'est ça, je crois, qui en fait la nouveauté, si bien que, si vous voulez, l'héritage de l'ancien régime monarchique, paradoxalement, sa gaucher l'a bien montré dans son livre sur la Révolution des droits de l'homme. D'une certaine manière, c'est parce que les Français sont les héritiers de l'ancien régime à la fois absolutiste et de ce qui reste de féodalité qu'ils ne peuvent pas s'appuyer sur les libertés anglaises, etc. C'est pour ça qu'ils sont presque rationnellement obligés de mettre la barre plus haut, pour parler dans le langage d'aujourd'hui, et d'aller vers ces prétentions universelles un peu impressionnantes.
Annie Jourdan, je vais vous citer un livre que Philippe Reynaud n'aime pas, parce que je l'ai apporté, j'ai mis sur la table, il m'a dit « Oh, quel mauvais livre,
non, Georges Gustorff ».
Non, vous m'avez dit, c'est le livre de trop ou quelque chose comme ça de Georges Gustorff, non ?
Ça ne joutait rien, ça gloire.
Oui, ça ne joutait rien, ça gloire. Les révolutions de France et d'Amérique, la violence et la sagesse. Alors, comme vous êtes précisément, vous aussi, comme Georges Gustorff, dont je plaide pour la réhabilitation, Annie Jourdan, une spécialiste de la comparaison entre nos révolutions françaises et américaines, je voudrais vous soumettre un petit listing que j'ai fait des oppositions pour lesquelles, selon Gustorff, il ne fallait pas comparer les deux révolutions. Premièrement, la révolution américaine n'a pas été influencée par la lumière française, contrairement à ce qu'on aime croire chez nous, mais par la lumière britannique. On a parlé de Hume tout à l'heure.
Ce qui est faux, absolument.
Ce qui est faux. Ah, alors, première divergence.
J'aurais aimé rebondir d'abord sur ce que disait Philippe Reynaud. Si les politiques américaines ne s'intéressent pas à la Révolution française, les historiens américains s'y intéressent et en nombre plus élevé que les historiens français. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur l'écho en Europe de la Révolution française et le moindre écho de la Révolution américaine en Europe. Il me semble que tout est une question de distance quand même et aussi de démographie. La France pouvait intervenir là où elle voulait avec ses 24 ou 25 millions de Français, alors qu'aux États-Unis, je crois qu'à l'époque, il y en avait 2 millions, si je ne me trompe pas. Enfin, il y a des causes. C'est pour ça que je m'intéresse quand même à l'histoire socio-culturelle, plus que seulement à une approche strictement politique et ou philosophique, parce qu'on ne prend pas en compte, quand on parle des concepts ou des idées, de tout ce qui peut influencer à côté, disons. Et la souveraineté populaire, c'est également quand même, ce sont, pour autant que je sache, les Américains et les Hollandais en ont parlé bien avant 1789. Je suis en train de travailler là-dessus. Bon, pour revenir à Gustorff,
Attends, je ne vous ai pas lu la liste de mes questions, vous en avez déjà réfuté une première, allons à la deuxième tout de suite. Contrairement à l'acte révolutionnaire du tiers-État qui se mue donc en assemblée constituante, la convention de Philadelphie, elle, ne prétend pas incarner une rupture politique, simplement les responsables qui ont été désignés par les États fédérés remplacent ceux qui avaient été désignés par la couronne britannique, et Gustorff écrit « À part ces changements, la vie a continué comme avant ». Vrai ou faux ?
Faux aussi, oui.
En quoi ?
Parce que tout d'abord, tout a changé. On parle sans arrêt de la déclaration d'indépendance de 1776, qui était déjà révolutionnaire. Mais tous les États, ou en tout cas 6 ou 7 États, ont conçu des déclarations des droits de l'homme avec l'égalité naturel au premier
plan. Il n'y a pas eu de révolution sociale comme chez nous. On n'a pas dû se débarrasser des élites.
J'ai pas terminé. Je ne parle pas à l'allure à laquelle vous parlez. J'ai pas terminé parce que aux États-Unis, ce qui s'est passé aussi, ce qu'on oublie justement.
Il nous reste 17
quand
minutes.
Quand on a une approche trop philosophique, c'est que les lois se sont américanisées. Tout a été changé. Le droit pénal a été modifié. On a conservé le jury à l'anglaise, mais le droit pénal a été modifié. L'éducation de tous a été à l'ordre du jour. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est institutions juridico-culturelles. Donc tout a été modifié. Que ça soit
on n'a pas changé le calendrier.
On n'a pas
répudié le passé. On n'a pas créé de nouvelles circonscriptions administratives. On n'a pas proclamé un nouveau culte comme l'a fait la Révolution française avec le culte de la déesse raison, etc. Ça fait beaucoup de différence.
Le culte de la déesse raison a duré un printemps. Donc le culte de l'être suprême, idem dito. Donc non.
Bernard Cotteret.
Oui, je crois qu'il y a une chose qui est fondamentale quand on compare les trois révolutions, quand on compare les trois pays, quand on compare les trois cultures, allais-je dire, c'est qu'il y a quand même une différence religieuse fondamentale entre une France qui, effectivement, est quand même majoritairement catholique, très majoritairement depuis la révocation de l'édit de Nantes à laquelle Mme Jourdan a fait implicitement référence en parlant du refuge en Hollande, et que donc le pluralisme des sociétés anglo anglophone, aussi bien anglaise d'ailleurs qu'américaine, est d'abord un pluralisme religieux. Je crois que c'est dans la religion que les Anglais, les Américains, les Anglo-Américains ont fait l'expérience première de ce pluralisme. Vous connaissez la phrase célèbre de Voltaire, « Un Anglais comme homme libre va au ciel par le chemin qui lui plaît ». Moi, c'est une phrase que je trouve absolument extraordinaire et qui rend bien compte effectivement de cette réalité anglaise et anglo-américaine qui frappe effectivement les visiteurs français. Donc il y a un pluralisme qui est un pluralisme religieux d'abord, et c'est sur le plan religieux que les Anglais et les Anglo-Américains ont fait l'expérience du pluralisme avant de faire cette expérience sur le plan politique. Je crois qu'il faut ne pas perdre de vue cette donnée. Il y a une deuxième chose qui me paraît essentielle quand on parle des révolutions de part et d'autre de l'Atlantique, c'est que en Amérique, évidemment, il n'y a pas d'ancien régime. Il y a, si vous voulez, une société d'avant la Révolution, mais le terme d'ancien régime, on ne peut pas véritablement l'utiliser pour la société coloniale, ou pas totalement, ou pas au même titre qu'en France. Et deuxièmement, ça explique que la Révolution américaine, c'est un peu, je vous ai dit que là, il y avait cette espèce de gémination de la Révolution anglaise, qu'il y avait deux révolutions, et je dirais qu'il y a deux révolutions américaines aussi. Il y a une première Révolution américaine qui est celle dont on parle ici, qui succède à la guerre d'indépendance, et il y a une deuxième révolution américaine, qui elle est une révolution sociale, et c'est la guerre de sécession. Et vous savez qu'il y a des textes de Marx sur... je travaille à l'heure actuelle sur ces textes, des textes de Marx sur la guerre de sécession, qui sont absolument prodigieux. Et on voit très nettement comment la révolution américaine est une révolution double. Et donc, si vous voulez vraiment parler du phénomène révolutionnaire outre-Atlantique, à mon avis, il ne faut pas vous restreindre au XVIIIe siècle, mais il faut aussi prendre en compte ce qui s'est passé dans les années 1860 et au-delà. Je crois qu'il y a là quelque chose de très, très, très important. Et aussi, en France, je ne voudrais pas ici faire de polémiques inutiles, mais enfin, ce qui a pesé le plus durement contre la Révolution, c'était quand même l'attitude de l'Église, la condamnation des droits de l'homme par Pie VI. Vous savez qu'immédiatement, dès 1791, le pape Pie VI a comparé précisément la Révolution française, la politique religieuse, le gallicanisme fondamental de la Révolution française avec le schisme d'Henri VIII, comme s'il avait le sentiment effectivement que la modernité politique venait, et religieuse, venait d'Angleterre. Il y a là quelque chose qui n'est pas suffisamment souligné, que j'ai dit dans mon histoire de l'Angleterre. Mais c'est effectivement que la Révolution française a dû faire face à ce premier défi qui était celui de l'Église catholique.
France Culture, du grain à moudre, vous écoutez Bernard Cotteret, qui est historien spécialiste de l'histoire de l'Angleterre. Vous avez entendu Annie Jourdan, qui est également historienne et en ce moment à Amsterdam, où elle enseigne à l'université. Et puis nous sommes en compagnie de Philippe Reynaud, qui vient de sortir son dernier ouvrage, « Trois révolutions de la liberté, Angleterre, Amérique, France » aux presses universitaires de France. Philippe Reynaud, vous aviez envie de reprendre la parole. Un ouvrage qui vous a intéressé aussi, parce que ce que vous cherchez, c'est la difficile naissance d'un libéralisme français, ou comment peut-on être français et libéral ?
Oui, mais je crois ce qui m'intéresse, c'est la comparaison des traditions politiques qui sont issues des trois révolutions. Et je suis d'autant plus sensible à ce que vient de dire M. Cotteret sur la guerre de sécession que c'est un point auquel je consacre un chapitre précisément pour dire que c'est le moment où il y a une sorte de comparaison possible entre la France et l'Amérique, précisément parce que les questions les plus difficiles avaient été très habilement d'ailleurs contournées en 1787 par un compromis entre le Sud et le Nord. Elles n'ont pas pu l'être, et là on voit très bien que ce qui n'avait pas lieu en 87 parce qu'il n'y avait pas d'ancien régime depuis Tocqueville, c'est un grand thème classique, là se produit parce que d'une certaine manière on a l'équivalent d'un ancien régime qui est le Sud, et on a également du coup des courants qui commencent à ressembler un peu à ce qu'est la droite radicale européenne à ce moment-là, disons des courants qui s'apparaissent, s'il y a quelque chose qui ressemble à de la pensée contre-révolutionnaire, c'est dans ce contexte-là, et on a également du côté des abolitionnistes, un rapport aux institutions, à la Constitution, qui n'a pas le même loyalisme traditionnel qu'il y avait en 1787. Donc je crois que la comparaison peut être poussée assez loin, même si, bien entendu, comparaison n'est pas toujours raison, s'il y a des différences importantes qui demeurent. Alors, bien entendu, au fond, il y a la difficile acclimatation du libéralisme politique en France, qui est un de mes problèmes, mais pour ma part, je reste assez profondément un fils de la Révolution française. Je n'ai jamais renié cet héritage.
Ni Madame de Staël, ni Benjamin Constant, beaucoup de pages.
Oui, moi je suis dans la lignée des libéraux français qui, au XIXe siècle, parlent tous de la Révolution française comme d'un grand événement. L'idée, si vous voulez, pour avoir dans le cadre libéral une hostilité fondamentale à la Révolution, il faut attendre Taine. Qui est un grand esprit, mais qui est quand même relativement tardif.
Là, on est quand même un petit peu au cœur du sujet avec la définition de ce qui serait un illibéralisme français et qui procéderait effectivement de différences entre nos trois révolutions. C'est quand même la méfiance envers le pouvoir. Vous l'écrivez, les Whigs en particulier sont extrêmement méfiants envers le pouvoir, les Américains aussi, les fédéralistes américains aussi. Alors pourquoi nos révolutionnaires à nous ne la partageaient-ils pas? Qu'est-ce que vous pensez des thèses de Bertrand Jouvenel là-dessus, qui écrivait, je le cite dans Du Pouvoir, « Le développement d'un pouvoir liberticide s'accompagne souvent de la complicité active des citoyens qu'on persuade sans grand mal qu'ils vont ainsi hâter leur rêve d'égalité et leur émancipation des autorités sociales traditionnelles. »
Vous savez, je crois que dans la Révolution française, le problème, c'est qu'il y a... On manque pas de méfiance à l'égard du pouvoir, et notamment des pouvoirs élus et légitimes. C'est bien pour ça qu'il y a des journées révolutionnaires sans arrêt. Si vous voulez, le problème de la Révolution française, c'est la difficulté à instaurer un pouvoir représentatif légitime. Ce que je dirais plutôt, c'est que...
Envers un pouvoir dont on pense qu'il va émanciper vis-à-vis des autorités traditionnelles. Parce que ce pouvoir d'État se met en rivalité.
On a confiance, bien sûr, on a confiance, mais ça vient de toute la... non seulement de la tradition de l'Ancien Régime, mais de la tradition des Lumières françaises, qui sont très profondément... qui d'ailleurs, pour ces raisons-là, font, à l'exception d'un Apax comme Montesquieu, font très largement confiance dans la monarchie absolue pour rationaliser le système français. Même le grand Voltaire, par exemple, est un tenant de la thèse royale, continuellement. Ça n'empêche pas que c'est lui qui anticipe le mieux sur Madison, puisqu'il explique non seulement il y a la belle formule que citait M. Cotteret tout à l'heure, mais il y en a une autre où il dit « Si vous avez une seule religion dominante, elle opprimera toutes les autres. Si vous en avez deux, elles se font la guerre. Il faut donc en avoir plusieurs. » Et ça, c'est exactement l'argument madisonien du fédéraliste 51. Ça n'était pas... l'idée pluraliste n'est pas complètement absente des têtes françaises, mais je crois que dans le... Je crois aussi, c'est ce qu'on peut dire, si vous voulez, ce qui a été dit, par exemple, par le meilleur historien de Voltaire sur ces questions, qui est un Américain, son nom reviendra, c'est l'auteur de Voltaire, Peter Gay, qui a écrit un livre admirable sur la politique de Voltaire.
Divergeons là encore.
si, c'est beaucoup, c'est un livre admirable. Si, c'est un livre vraiment un chef-d'œuvre. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui dit très bien, notamment contre Tocqueville, que la position des Lumières françaises, elle n'est pas aussi abstraite qu'on pourrait le croire, puisque de fait, dans l'ancien régime français, il n'y a pas d'autre point d'appui que le pouvoir royal à partir d'un certain moment. Mais évidemment, ça n'est pas une chance pour installer des régimes. Des démocraties libérales qui marchent, il y a un certain handicap français au départ, ça je peux vous le reconnaître. Oui.
Bernard Cotteret, je repose ma question parce que je n'ai pas encore la réponse qui me satisfaisait. Le pouvoir étatique en France est en concurrence, comme en Angleterre dont vous êtes spécialiste, avec d'autres autorités sociales. Mais en France, le pouvoir étatique fait le pari d'émanciper les individus, les citoyens, de ces autorités concurrentes. Et finalement, enfin c'est un peu la thèse tocquevillienne ou celle de Jouvenel, où progressivement, ce pouvoir va se gonfler, va prendre de l'importance et va tourner au despotisme à certains moments de notre histoire, en prétendant émanciper l'individu des féodalités qui le tenaient encore. Et moyennant quoi, il va laisser l'individu tout seul face à un pouvoir qui va l'écraser. C'est Parce qu'on constate en Grande-Bretagne. Et pourquoi ?
Je voudrais citer une anecdote tout à fait révélatrice. C'est une chose qui est arrivée à l'un de nos collègues universitaires qui se trouvait face à des étudiants qui ne l'appréciaient guère et qui ont commencé par le traiter de fasciste. Et trouvant que le mot fasciste était encore faible, ils l'ont traité de libéral. Et je crois que ça montre bien effectivement cette espèce d'impasse de la pensée libérale en France qui est récusée en permanence par ceux-là même auxquels elle s'adresse. On ne sait pas très bien pourquoi un mot qui, dans ma bouche, du moins, est un terme positif, peut-être parce que j'ai aussi une culture qui est une culture anglaise et américaine, mais le mot libéral est très souvent très négativement perçu en France comme équivalent de droite au sens le plus restrictif du terme. Alors, il y a là quelque chose que je trouve tout à fait éclairant sur la situation française. Et ce qui est très curieux, si vous prenez la sémantique du terme libéral, c'est que pour beaucoup de gens en France, le terme libéral est perçu comme équivalent de droite, voire de droite extrême dans le cas que je viens de citer. Si vous traversez évidemment la Manche, le terme libéral signifie pratiquement à l'heure actuelle, dans le vocabulaire actuel, centriste. Et puis si vous allez encore plus loin et si vous franchissez l'Atlantique, le terme liberal, ça veut dire au contraire très 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 à gauche, en particulier en matière de mœurs. Je crois qu'il y a là une histoire extraordinaire dans le destin comparé de ce terme libéral en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis.
C'est vrai aussi que c'est pour ça que dans une partie de l'opinion américaine aussi, libéral est une insulte.
Absolument.
Dans l'autre sens.
Et il y a là quelque chose, à mon avis, qui n'est pas suffisamment retenu, parce que derrière l'anecdote, il y a évidemment un fait qui est carrément un fait de civilisation.
Annie Jourdan, vous êtes toujours avec nous au téléphone. Libéral dans les pays anglo-saxons, ça veut dire quoi alors ? Pardon, dans les pays néerlandais. Vu du côté de la révolution batave, est-ce que c'était une révolution libérale ?
J'ai beaucoup plus de références au terme libéral en France, enfin pour l'époque des révolutions, qu'aux Pays-Bas. Ils ne parlent pas de libéral. Alors que Napoléon, par exemple, parle de ses lois libérales. Et je pense avoir trouvé une autre référence plus précoce. Je voudrais aussi réagir à ce qu'on a dit sur la guerre de sécession. Sans remonter à 1860, il me semble qu'on peut voir des dissensions à l'intérieur des États-Unis dès 1798 et aux Pays-Bas aussi. C'est-à-dire que on pourrait voir un genre de tentation terroriste par certaines lois répressives de 1798 pour les États-Unis et de 1798 pour la République batave. Aux États-Unis, ce sont les lois anti-étrangers et anti-sédition qui ont permis d'enfermer les journalistes qui ne parlaient pas dans le sens des fédéralistes, puisque c'était les fédéralistes à l'époque qui étaient au pouvoir. Ils ont terrorisé les réfugiés français, dont témoigne Moreau de Saint-Méry. Je ne sais pas si vous connaissez
non. Ce
monsieur qui est très, très intéressant parce qu'il est devenu administrateur des États de Parme sous l'Empire. Et donc, ce que je vois, les contradictions américaines ou bataves se révèlent dès 1798, en fait. Et aux États-Unis, elles se calmeront sous la présidence de Jefferson et aux Pays-Bas sous la dictature de Napoléon.
Donc finalement, nous n'avons pas l'exclusivité du terrorisme politique.
Non, mais
L'Alien Sedition Act s'est dirigé notamment contre les amis de la Révolution française. Et Jefferson est d'une certaine manière un ami de la Révolution française.
Oui, absolument. Non, je suis d'accord. Le Sedition Act est dirigé contre les journalistes qui ne parlent pas dans le sens du président de l'époque.
Je vous remercie, Annie Jourdan. Vous étiez avec nous au téléphone depuis Amsterdam. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire associé à l'Université d'Amsterdam. Vous êtes auteur de La Révolution, une exception française, Flammarion. Ça vient d'être c'est une nouvelle édition, donc ça vient d'être réédité. Et puis La Révolution batave entre la France et l'Amérique. On a parlé beaucoup des révolutions anglaises, américaines et françaises aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on connaît fort mal la Révolution batave et ça nous éclairerait certainement sur bien des points. Je remercie donc Philippe Reynaud pour ce livre, Trois révolutions de la liberté, Angleterre, Amérique, France. C'est très ambitieux. C'est vient de sortir au PUF. Bernard Cotteret, donc vous êtes professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne et à l'Institut universitaire de France. Bernard Cotteret, vous êtes historien, spécialiste de l'histoire britannique, de l'histoire de l'Angleterre. Vous êtes aussi à l'Institut universitaire de France. Vous avez publié de nombreux livres consacrés à la Révolution et à l'histoire britannique tout court. Quel est celui qui est consacré à la Révolution de 1688 ?
1688, la Glorieuse Révolution. Et c'est chez Gallimard.
Chez Gallimard. Bon.
Que j'avais écrit pour Pierre Nora.
Et puis tout récemment, vous êtes l'auteur également d'un Calvin publié chez Payot. On voit pourquoi vous défendez les protestants.
Parce qu'on voit que vous avez un sang-froid tout à fait britannique, puisque votre micro est tombé pendant votre intervention et ça ne vous a pas perturbé le moins du monde. Demain, rendez-vous après le journal de la rédaction à 18h20. Proudhon.
C'est le souvenir de Churchill.
Voilà. Proudhon, libéral ou socialiste. On reviendra aussi sur l'histoire des idées demain avec trois spécialistes de Proudhon. Anne-Sophie Chambotte, Vincent Valentin et Édouard Jourdain, Dugrin Hamoud, Brice Couturier, Julie Clarini, Nathalie Lempereur, Mathieu Sarda et Francesca Fossati. On retrouve tout de suite Laurent Goumard. Il est 19h sur France Culture. Bonsoir.